Prenons un scénario, disons, de la vie quotidienne.
D'accord, vas-y.
Imagine qu'au beau milieu de la nuit, un ordinateur négocie le prix d'une paire de baskets en édition limitée.
Ouais.
Il calcule la taxe locale, il sélectionne le mode de livraison le plus rapide et bim, il finalise le paiement. Le tout sans qu'aucun humain n'ait cliqué sur une seule souris ou tapé un code de carte bleue.
C'est le rêve pour certains, non?
Grave, sauf que ce n'est plus un extrait d'un roman de science-fiction. Depuis le 11 janvier 2026,
La fameuse date.
exactement la date à laquelle Sundar Pichai a annoncé l'Universal Commerce Protocol, c'était au salon de la National Retail Federation, le NRF, et depuis ce jour, c'est la nouvelle réalité du commerce en ligne.
C'est vraiment un changement radical.
Totalement. Et notre analyse d'aujourd'hui, notre petite plongée au cœur de sujet, elle s'appuie sur un article vraiment fascinant de Vanguard Edge Consulting. Il documente ce basculement.
Et quel basculement!
En gros, fini le parcours traditionnel avec les 15 onglets ouverts, les comparaisons manuelles et les paniers abandonnés. Les agents autonomes achètent désormais à notre place.
L'ampleur de ce changement de paradigme, en fait, elle est vertigineuse. On parle d'un terme technique maintenant, le protocole de transaction autonome. Ça remplace complètement les simples algorithmes de recommandation qu'on connaissait dans le passé.
Ouais, l'époque où on te disait juste « vous aimerez aussi ça ».
C'est ça. Avant, un algorithme suggérait une paire de baskets et l'humain devait faire le reste du boulot. Remplir ses infos, payer...
Quelle corvée!
Bah oui. Mais aujourd'hui, ces protocoles prennent le relais de A à Z. Et c'est allé très vite. À peine 2 mois après l'annonce de Google, des plateformes massives genre Wayfair ou Etsy...
Oh, Etsy, ah ouais.
Ouais. Etsy permettait déjà à ses agents synthétiques de réaliser des transactions complètes. Et ça, directement depuis les interfaces de recherche.
Bon, décortiquons tout ça parce que c'est dense. Selon l'article de Vanguard Edge, le cadre de ces transactions, il est d'une rigidité absolue.
C'est le mot.
Le protocole, il est conçu pour scanner un catalogue entier, trouver la bonne taille, remplir le panier, appliquer les règles fiscales locales et payer.
Rien que ça.
Rien que ça. Mais ce qui frappe vraiment, c'est l'enjeu financier derrière cette énorme infrastructure. Il y a un rapport de McKinsey qui date de 2025.
Ouais, je l'ai lu.
Eh bien, il projette que ce commerce agentique pèsera entre 3 et 5 trillions de dollars d'ici 2030.
Trillions ? C'est des chiffres qu'on a même du mal à conceptualiser.
Totalement. Et face à un gâteau pareil, il est logique qu'une guerre totale ait éclaté pour construire les fameux tuyaux de cette économie.
Ah la guerre des protocoles, elle est bien réelle.
Et sur ce champ de bataille, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a celle de Google avec l'UCP et de l'autre, celle d'OpenAI avec la CP.
Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment de voir comment ces deux géants abordent le problème. L'approche de Google avec l'UCP, elle illustre une volonté de contrôler la chaîne de bout en bout.
Le monopole classique, quoi.
Disons qu'ils aiment bien quand tout reste chez eux. Le protocole enferme la transaction dans son écosystème. L'agent découvre le produit, il gère le panier et, pour la sécurité, parce que c'est crucial, il utilise le standard OAuth 2.0.
OAuth 2.0, ouais. Faut peut-être vulgariser un peu pour ceux qui n'ont pas le nez dans le code tous les jours.
Bien sûr. En fait, OAuth 2.0, ça fonctionne un peu comme un ticket de voiturier, tu vois.
Ah, j'aime bien l'image.
Ça donne à l'agent l'autorisation de dépenser via Google Wallet, mais sans jamais lui révéler le mot de passe ou le numéro de carte de crédit de l'utilisateur.
Ok, donc l'agent a les clés de la voiture pour la garer, mais il ne peut pas ouvrir la boîte à gants et prendre ton portefeuille.
Exactement. Et ensuite, le système utilise ce qu'on appelle des webhooks.
Des webhooks?
Ouais. Au lieu que l'agent aille demander frénétiquement au site marchand « c'est expédié, c'est expédié, c'est expédié », le webhook crée une ligne directe.
D'accord.
Ça envoie une notification instantanée à l'agent dès que le statut de la commande change.
Attends. Du coup, la transaction entière se fait sans jamais atterrir sur le site web de la marque?
C'est ça. L'utilisateur interagit avec Gemini ou un autre service Google et le paiement, hops, il se fait en arrière-plan.
C'est redoutable efficacité. Mais alors, comment se positionne OpenAI avec son ACP, l'Agentic Commerce Protocol? Parce qu'ils l'ont développé avec Stripe, non?
Oui, avec Stripe. Et sur le papier, on pourrait penser que l'alliance de ces deux géants proposerait une alternative tout aussi fluide.
Bah oui, Stripe, c'est quand même les rois du paiement en ligne.
La théorie était magnifique. Ils misaient sur un protocole ouvert.
Ouais.
Sauf que la réalité technique, qui a été un peu révélée par la documentation d'OpenAI en février 2026...
Aïe!
Ouais, ça a mis en lumière une faille structurelle majeure, leur incapacité à gérer les taxes de vente.
Les taxes?
Vraiment.
Ah bah, aux États-Unis, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est pas un taux national unique comme en France, par exemple.
Ah oui, c'est vrai, chaque État fait un peu ce qu'il veut. Pire que ça, il existe plus de 11 000 juridictions fiscales différentes là-bas.
11 000? Non mais c'est un délire!
Le taux, il change d'un État à l'autre, bien sûr, mais aussi d'un comté à l'autre, et parfois même d'une rue à l'autre au sein d'une même ville.
Ah, la complexité de la fiscalité américaine. Mais du coup, sans un mécanisme hyper robuste pour calculer la bonne taxe à la virgule près, la vente, elle est tout simplement illégale.
C'est exactement le problème. L'agent autonome, il se retrouve paralysé devant la caisse.
Comme un touriste qui ne sait pas combien donner de pourboire.
Voilà. Le résultat de cette faille, c'est que ça a forcé OpenAI à faire un pivot stratégique. Il visait des millions de marchands connectés nativement, au départ.
Et au final,
ils se sont retrouvés avec une petite douzaine de grands détaillants, ce qui était capable de bricoler une solution interne pour gérer ça.
C'est un sacré revers.
Et surtout, l'ACP a dû abandonner le concept du paiement invisible. Aujourd'hui, leur protocole se contente de rediriger l'acheteur vers le site du marchand pour qu'il finalise lui-même la transaction.
Ok, pour bien visualiser la différence, pour ceux qui nous écoutent, on peut dire que ces protocoles agissent comme des personal shoppers.
C'est une bonne analogie.
L'UCP de Google, c'est le majordome de luxe. On lui demande une chemise, il se rend en boutique, il choisit le bon modèle, il avance l'argent, il règle la TVA à la caisse et il fait livrer le paquet direct à domicile.
Royal.
Alors que l'ACP d'OpenAI, en revanche, c'est plus, disons, le copain serviable.
Ouais.
Il conduit jusqu'au magasin, il te montre le rayon des chemises, mais il reste dans la voiture pendant que tu dois te taper la queue à la caisse.
C'est tellement ça. L'élimination de la friction, c'est vraiment le nerf de la guerre ici. L'UCP retire toutes les étapes fastidieuses, alors que l'ACP en laisse une et pas des moindres.
Le paiement ?
Mais si l'infrastructure de ces majordomes numériques, elle est construite par Google et OpenAI, il faut bien que les boutiques en ligne s'y connectent. Et c'est là que l'architecture des plateformes e-commerce joue un rôle central.
Tout à fait. Et l'article de Vanguard Edge, il met vraiment en lumière la stratégie de Shopify là-dessus. Apparemment, ils ont enregistré une multiplication par 15 des commandes initiées par ces agents rien que lors du quatrième trimestre 2025.
C'est une croissance phénoménale, 15 fois plus.
C'est énorme. Shopify a déployé une approche qu'ils appellent « Zero Integration » via leur système catalogue. En clair, les données des catalogues marchands, elles sont syndiquées et poussées automatiquement vers l'USP et l'ACP.
Sans que personne n'ait besoin de coder.
Voilà. Sans que les développeurs des boutiques n'aient à toucher une seule ligne de code. Etsy a d'ailleurs utilisé une mécanique un peu similaire pour devenir le premier marchand actif simultanément sur les deux protocoles.
Ce qui est une sacrée prouesse technique.
Mais du coup, une question se pose. Si Shopify s'occupe de la plomberie technique de manière aussi invisible, est-ce que le propriétaire de la boutique, il n'a plus rien à faire ?
Ce serait trop beau.
C'est ça. Est-ce qu'il suffit de brancher le tuyau et d'attendre que les agents autonomes vident le stock en sirotant un café ?
Ta métaphore de la plomberie, elle est parfaite pour illustrer cette illusion de la simplicité. Shopify a installé des tuyaux flambant neufs, parfaitement étanches, qui relient l'entrepôt virtuel aux agents.
D'accord.
Le problème, c'est que ces tuyaux sont vides.
Ah.
Ces protocoles ne sont pas des marketplaces autonomes comme Amazon, par exemple, qui gèrent la logistique et tout pour le vendeur. Le commerçant, il conserve le statut juridique de « merchant of record ».«
Merchant of record », c'est-à-dire le vendeur officiel, légalement parlant.
Exactement. C'est lui qui encaisse les fonds, qui assume la politique des retours, le service client et bien sûr les obligations fiscales. Les tuyaux techniques sont en place, d'accord, mais la bataille s'est déplacée. Le succès, il dépend désormais de la qualité et de la structuration de l'eau qui coule dans ces tuyaux.
D'accord, je vois. Donc, l'infrastructure est là, le cadre légal reste la responsabilité de la marque. Mais concrètement, comment l'agent qui se trouve, disons, au bout du tuyau, il décide d'acheter un produit spécifique plutôt qu'un autre ?
Bah, c'est là toute la subtilité.
Parce qu'il n'a pas Dieu, l'agent. Il ne peut pas apprécier la super mise en page d'une boutique ou la beauté d'une photographie de mode.
Non, l'agent s'en fiche complètement du design. Pascal Fleury, qui est une figure très connue chez Google Search Central,
ouais.
Il a donné la réponse en décembre 2025. Il a déclaré que les données schéma sont, je cite, « la colle qui lie toutes ces anthologies ensemble ».
Le format schéma.org.
Oui, c'est le vocabulaire commun du web. Sans ces balises de code, qui sont très spécifiques et insérées dans la page web, l'agent est totalement aveugle. Peu importe que la boutique soit magnifique ou qu'elle ait coûté des milliers d'euros en design.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les audits menés par Vanguard Edge sur plus de 40 boutiques, ils révèlent une situation assez critique.
Moins de 20% d'entre elles possèdent un schéma produit complet.
20%. c'est effarant.
La majorité se contente d'afficher le nom du produit et le prix. Et ça, pour un agent autonome, c'est rien du tout.
Imaginons, je sais pas, un système de recrutement robotisé qui trie des milliers de CV.
Ok.
Si un candidat rédige un paragraphe super poétique de 200 mots sur sa passion viscérale pour la vente...
Le robot s'en fiche ?
Complètement. Le robot l'ignore. Il cherche des données froides, il veut les années d'expérience, les diplômes, les logiciels maîtrisés.
C'est une excellente comparaison. Pour le commerce agentique, c'est pareil. Une description super lyrique sur la douceur enveloppante de ce pull en cachemire, ça n'a aucune valeur face à des attributs de code qui sont parfaitement structurés.
Donc le marketing traditionnel en prend un coup.
Totalement. L'agent autonome, il processe des variables mathématiques, il ne ressent rien. Des champs de données qui étaient autrefois facultatifs ou juste vaguement recommandés pour le SEO.
Le référencement naturel.
Ouais, bah aujourd'hui, ils sont devenus le droit d'entrée exclusif à cette nouvelle économie.
Faut montrer patte blanche avec des datas précises.
Voilà. Les marchands doivent intégrer le SKU, par exemple.
Le Stock Keeping Unit.
Exact. C'est la référence interne unique du produit. Mais surtout, ils doivent se plier aux standards internationaux. L'UCP de Google, il exige l'utilisation rigoureuse des normes GS1.
Ces normes GS1, comme le fameux GTIN ou le GLN, ça mérite qu'on s'y arrête deux secondes. Parce que ce ne sont pas juste des acronymes techniques pour faire joli. Le GTIN, pour Global Trade Item Number, en gros, c'est la plaque d'immatriculation universelle et officielle du produit.
Le parallèle avec la plaque d'immatriculation, il est très juste. Sans un GTIN valide, l'agent considère que le produit n'existe pas officiellement sur le marché mondial.
Et bim, refusé.
Il refuse catégoriquement de l'ajouter au panier. Et à ça s'ajoutent les données d'offre, le prix exact, la devise et surtout l'état des stocks mis à jour à la seconde près.
À la seconde près, ah ouais.
Ben oui, imagine si l'agent l'achète et que c'est en rupture. Si une seule de ces variables manque dans le code schéma, l'agent y passe immédiatement au catalogue d'un concurrent qui, lui, a fait l'effort de structurer ses données.
Remplir ces champs schéma, c'est donc indispensable. C'est le ticket d'entrée pour que le produit soit vu par ses acheteurs synthétiques.
Oui.
Mais, et c'est là le piège, selon l'analyse de Vendor Edge, être vu, ça ne suffit pas pour déclencher une vente via l'écosystème de Google.
Ah non, ce serait trop facile.
Il faut franchir une étape supplémentaire au niveau du Merchant Center. C'est la plateforme où les commerçants envoient leur flux de produits. Et là, il faut renseigner ce qu'on appelle des attributs conversationnels.
Oui, Vijaya Srinivasan.
La vice-présidente chez Google Advertising and Commerce.
C'est ça, elle a officialisé l'arrivée de dizaines de ces nouveaux attributs qui sont spécifiques à l'UCP. On quitte complètement l'ère du simple mot-clé pour entrer dans une granularité extrême.
C'est-à-dire ?
Le commerçant, il doit désormais indiquer dans son flux si un produit est compatible avec un autre, quelles sont les substitutions autorisées en cas de rupture de stock.
Genre, s'il n'y a plus la taille M, est-ce que je peux proposer une autre coupe ?
Voilà. Et il faut aussi structurer des opportunités de vente croisées, tout ça dans le code.
C'est fou. Prenons un cas pratique pour vraiment illustrer l'importance d'un attribut conversationnel. Disons qu'un acheteur demande à son agent synthétique « Trouve-moi des chaussures de running sur route avec un amorti maximaliste taille 43 pour moins de 150 euros. »
Classique.
L'agent va scanner les fameux tuyaux. Il ne va pas se contenter de chercher le mot « chaussures » ou « running ».
Ah non, pas du tout.
Il a besoin de lire dans le flux de données le type de surface, donc route opposée à trail, et le type d'amorti, maximaliste opposé à neutre.
Et si la marque de chaussures n'a pas explicitement encodé ses valeurs dans le Merchant Center ?
Bah, l'agent ne fera aucune déduction logique. Il n'a pas d'intuition. Il ignorera purement et simplement la chaussure.
C'est implacable.
Et la rigueur exigée, elle va même encore plus loin. D'ailleurs, c'est la découverte la plus actionnable de l'audit mené par Vanguard Edge.
Ah oui, le fameux bouton caché.
C'est ça. Dans les tréfonds des paramètres du Merchant Center de Google, il existe un attribut booléen. C'est un simple interrupteur informatique, tu vois, qui prend la valeur vraie ou faux.
Oui, un toggle, quoi. Cet attribut s'appelle Native Commerce. Et la documentation de Google de février 2026, elle est formelle. Sans l'activation de ce petit bout de code, le catalogue est parfaitement lisible par l'agent.
Mais
le bouton acheter reste bloqué. Le majordome numérique, il peut regarder la vitrine, il peut admirer les produits, mais la porte de la boutique, elle reste verrouillée.
C'est quand même fou. Un interrupteur vrai ou faux qui bloque potentiellement des millions de dollars de transactions.
C'est la réalité.
C'est fascinant d'imaginer que le destin d'une boutique en ligne tienne à une case cochée dans un menu obscur technique. Mais pourquoi Google obligerait-il le marchand à activer manuellement cette option, alors que la promesse de l'UCP, c'est justement de tout automatiser? Ça paraît contre-intuitif.
Ça l'est, jusqu'à ce qu'on comprenne que cette friction manuelle, c'est en fait une protection juridique pour Google.
Ah ! On en revient au Merchant of Record.
Absolument. En activant l'attribut Native Commerce, le marchand accepte les conditions très strictes liées à ce statut qu'on évoquait plus tôt. Cette activation force le marchand à prouver qu'il a structuré ses politiques de retour de manière irréprochable.
Qu'il n'y a pas d'entourloupe.
Voilà. Et qu'il a fourni toutes les notices consommateurs imposées par la loi. L'agent autonome, il a besoin de savoir s'il y a des allergènes dans un produit alimentaire, par exemple.
Ou quels sont les matériaux exacts d'un vêtement pour éviter un procès.
Exactement. Google ne veut absolument pas qu'un de ses agents synthétiques finalise une vente qui enfreindrait une réglementation locale. Donc ils te font cocher la case pour dire « c'est moi qui prends la responsabilité ».
C'est logique. Mais du coup, l'exigence administrative et technique, elle attend des sommets. Historiquement, pour vendre en ligne, on misait tout sur le SEO, le référencement naturel.
La bonne vieille époque.
Ouais, on plaçait des mots-clés dans les titres, on obtenait des liens externes, on travaillait la vitesse de chargement du site pour plaire à l'algorithme de classement de Google. Sauf que cette stratégie-là, bien qu'elle soit encore utile pour les acheteurs humains, elle semble totalement déconnectée des besoins des protocoles autonomes.
Complètement. Et l'industrie a même trouvé un nouveau nom pour cette discipline.
La SEO ?
Oui, l'Agentic Commerce Optimization. Le terme a été popularisé par des spécialistes, notamment Alex Moss, chez Yoast.
Ah, Yoast, l'extension SEO bien connue.
C'est ça. Et ça définit vraiment le quatrième pilier de la visibilité en ligne aujourd'hui. Dans le monde de la SEO, le concept de classement ou de position sur une page de résultats, ça n'a plus aucun sens.
Bah non, puisque l'agent ne scrolle pas.
L'agent ne fait pas défiler une page de recherche. L'unique métrique qui détermine le succès maintenant, c'est la complétude absolue et la précision des données fournies.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? Ça signifie que la poésie marketing dont on parlait tout à l'heure, elle n'a plus d'impact direct sur la vente algorithmique.
Zéro impact.
Inscrire qu'un t-shirt est fait d'une matière de qualité supérieure, ça flatte l'ego du designer humain, ça fait joli sur la plaquette. Mais l'agent autonome, lui, il a besoin de lire « coton bio certifié GOTS, grammage 300 grammes par mètre carré ».
Et si ce n'est pas là, il passe au suivant. La sélection dans cet écosystème, elle est purement darwinienne.
Marche ou crève, quoi.
C'est vraiment ça. Les boutiques qui ont investi dans la qualification de chaque attribut, qui maîtrisent parfaitement les normes GS1 et qui maintiennent un merchant center impeccable, ce seront les seules à être sélectionnées par les acheteurs synthétiques de l'UCP.
Et les autres ?
Celles qui se reposent sur un flux automatisé rudimentaire avec juste un titre, une image et un prix, elles disparaîtront purement et simplement de ce canal de distribution.
Elles deviendront invisibles.
Invisibles pour ces nouveaux protocoles, oui.
Ce qui est dingue, c'est que le constat de cet article de Vanguard Edge, ce n'est pas une prédiction lointaine pour 2040.
Non, c'est aujourd'hui.
C'est une analyse de trafic réel généré en ce moment même. L'inertie, elle n'est plus permise pour les marchands.
Du tout.
Pour s'adapter à cette optimisation, à cet ACO, l'action doit être structurée. L'article propose trois étapes bien précises et c'est important de les rappeler. Le premier niveau, c'est l'urgence absolue, l'audit.
C'est la base.
Il s'agit de passer les pages produits au crible du Rich Results Test de Google pour vérifier la présence du schéma ORG. Et en parallèle, il faut configurer ce Merchant Center, valider les politiques de retour et activer ce fameux attribut booléen, le Native Commerce.
Parce que sans ça, la boutique est virtuellement fermée pour les agents.
Ensuite, le deuxième niveau, c'est un travail d'enrichissement massif.
C'est là que ça demande du temps, ouais.
C'est l'étape où le marchand traduit tout son catalogue dans la langue de l'agent. Il faut intégrer les couleurs codifiées, les cas d'usage très précis et bien sûr les fameux identifiants officiels GS1.
Et le dernier niveau ?
Le troisième niveau, lui, il demande une implication vraiment technique. Pour les architectures qui ne bénéficient pas de la syndication native et automatique de Shopify, comme par exemple WooCommerce, les développeurs doivent plonger dans la documentation des API.
Pour être sûr que ça communique bien.
Exactement. Pour garantir que les flux de données s'intègrent sans la moindre erreur avec les protocoles. Parce qu'une erreur de code, et l'agent s'en va.
Ça ne pardonne pas.
Pour ceux qui gèrent des catalogues en ligne et qui souhaitent appliquer cette méthodologie à leur propre infrastructure, l'analyse complète et l'audit technique de Vanguard's Edge sont disponibles en détail.
Je recommande vraiment la lecture, c'est très éclairant.
Pour ça, il suffit de se rendre sur vanguardedgeconsulting.com, blog, UPC, commerce, agent e-commerce, SEO e-commerce. L'article fournit toutes les clés pour ne pas devenir invisible dans ce nouveau monde.
Mais tu sais, au-delà de l'intégration technique, du code schéma et de ses balises booléennes, les 7 révolutions, elles soulèvent quand même une réflexion vertigineuse sur notre rapport au commerce en général.
C'est vrai que ça change tout. Depuis l'apparition des premières vitrines dans les rues, le commerce a toujours reposé sur la séduction, sur l'hésitation, sur le fameux coup de cœur.
L'achat d'impulsion.
Exactement. Mais si demain, la majorité de nos décisions d'achat est déléguée à des agents autonomes, des agents qui sont capables de comparer des prix et des attributs techniques en une fraction de seconde, avec une froideur mathématique impitoyable.
C'est ça qui est fascinant et un peu effrayant.
Alors, la question se pose. Comment les marques réussiront-elles à maintenir une loyauté ou même une véritable connexion émotionnelle avec des consommateurs dont l'attention aurait été totalement retirée du processus de découverte? C'est là-dessus qu'on va vous laisser méditer aujourd'hui.